VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 7 juin 2018, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, l'insécurité grandissante dans la région de Mopti inquiète.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a des entretiens aujourd'hui sur la Centrafrique à Brazzaville et à N'Djamena.
En République démocratique du Congo, des défenseurs des droits de l'homme demandent la libération de militants pro-démocratie détenus depuis fin décembre.
Le président américain Donald Trump promet de rester ferme sur ses positions quant aux relations commerciales au sommet du G7.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, la région de Mopti vit aujourd'hui dans une insécurité presque totale. Pour trouver des solutions à cette situation, l'équipe chargée d'aider à la réconciliation veut se doter d'un plan d'action de 2 ans, nous dit notre correspondant Mamoudou Bokoum.
Cette rencontre entre les acteurs de la réconciliation nationale est un cadre d'échange et de propositions. Un cadre qui permet d'élaborer un document pour mieux maîtriser les actions futures. Ce plan d'action permet de bien préparer les acteurs de la réconciliation afin qu'ils puissent faire face aux défis qui les attendent, comme nous l'explique ici le président de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation nationale, Ali Kampo.
L'élaboration de ce plan répond à des objectifs. D'abord, une performance des équipes régionales pour maîtriser l'outil dans le domaine de la réconciliation et la cohésion sociale. Les conflits au niveau du Delta et au niveau de la zone exondée font que Mopti aujourd'hui est devenu l'épicentre de la violence au Mali. Donc, il faut que les mécanismes de réconciliation, de recherche de paix, soient un outil mieux maîtrisé par les acteurs que nous sommes. Le deuxième aspect extrêmement important, c'est de faire des projections sur 2 ans pour ne pas aborder le programme sur un pilotage à vue. Parce que plus vous avez un calendrier bien élaboré, une vision mieux étayée, ceci vous permettait d'avoir des résultats stratégiques importants pour que la paix et la tranquillité soient dans la région de Mopti.
La région de Mopti, il faut le rappeler, est une zone cosmopolite riche de sa diversité ethnique, culturelle et linguistique, appréciée de tous. Mais aujourd'hui, elle vit une autre réalité peu reluisante. Mamoudou Bokoum à Mopti pour VOA Afrique.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, s'entretient aujourd'hui avec les présidents congolais Denis Sassou Nguesso à Brazzaville et tchadien Idriss Déby Itno à N'Djamena. Le point avec Marie Benson.
Monsieur Le Drian a entamé une tournée dans plusieurs pays d'Afrique pour discuter avec certains chefs d'État de la situation de la Centrafrique. Il rencontre aujourd'hui le président congolais et le président tchadien, tous les deux médiateurs dans le conflit centrafricain. La France est intervenue en 2013 pour enrayer des affrontements intercommunautaires. Depuis, Paris a passé le relais à la communauté internationale et mis fin en décembre 2016 à son opération militaire Sangaris. Mais de récentes violences font craindre un nouvel embrasement. La tournée de Jean-Yves Le Drian se termine demain avec un entretien avec Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine en Éthiopie.
En République démocratique du Congo, militants pro-démocratie, opposants, suspects, des dizaines de personnes sont détenues au secret, sans avocat ni droit de visite, par les services de sécurité en cette période d'incertitude politique, dénoncent les défenseurs des droits de l'homme. L'avocat et les familles de 5 militants pro-démocratie, détenus depuis fin décembre, viennent de demander devant la presse leur libération ou leur comparution devant un juge compétent. D'après leur avocat, ces militants du mouvement Filimbi sont détenus à Kinshasa, dans les prisons secrètes de l'Agence nationale de renseignement, l'un des piliers sécuritaires de la RDC.
Certains ont été torturés et souffrent de problèmes de santé, affirment l'avocat et leurs proches. Selon eux, ces militants avaient été arrêtés parce qu'ils soutenaient la première marche des catholiques le 31 décembre, demandant au président Joseph Kabila de s'engager à quitter le pouvoir. Interrogé par l'AFP, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, n'a pas voulu réagir à ces allégations d'ONG.
La Cour internationale de justice a renvoyé dos à dos hier la France et la Guinée équatoriale en rendant un arrêt mitigé sur les poursuites françaises contre le vice-président équato-guinéen. Le point avec Raissa Gironde.
La Cour n'a pas compétence sur la base de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. C'est ce qu'a déclaré le juge Abdoulkawi Hamed Youssouf, président de la Cour internationale de justice. Paris a toujours contesté la compétence de ce tribunal dans cette affaire. Par contre, la Guinée équatoriale, qui a saisi la Cour, dénonçait une violation de l'immunité de Théodora Obiang, que la justice française a condamnée dans le procès dit des biens mal acquis. Malabo affirmait que les autorités françaises n'avaient pas non plus le droit de perquisitionner une propriété de 6 étages de la famille Obiang à Paris. Cette propriété de luxe dispose d'un cinéma et de robinets en or, selon l'ambassade équato-guinéenne. La Cour s'est dite compétente pour se prononcer sur le statut de cet immeuble situé au 42 avenue Foch, a poursuivi le juge. Elle devrait se pencher sur l'affaire lors de prochaines audiences.
Au Nigeria, au moins 15 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées au cours d'attaques distinctes dans l'État central de Benue, théâtre d'affrontements réguliers entre agriculteurs et éleveurs. Selon l'AFP, citant hier des sources officielles, des éleveurs peuls nomades ont attaqué plusieurs villages en l'espace de 48 heures. Ce conflit pour la terre et l'eau a pris ces derniers mois une tournure identitaire et religieuse entre deux communautés devenues apparemment irréconciliables.
Au Soudan du Sud, le groupe rebelle de Riek Machar a indiqué hier qu'il était disposé à rencontrer le président Salva Kiir. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Des pourparlers vont-ils avoir lieu entre les grands rivaux Riek Machar et Salva Kiir au Soudan du Sud? Ateni Wek Ateni, le porte-parole du président Kiir, a déclaré qu'une rencontre entre les deux hommes devrait se tenir fin juin. Mais le SPLMIO, le mouvement de Riek Machar, a démenti ces propos, qualifiés de désinformation, tout en assurant que leur chef, Riek Machar, serait ravi de rencontrer le président Kiir au nom de la paix. Le président soudanais Omar el-Béchir avait offert mardi ses bons offices en proposant d'accueillir des pourparlers de paix à Khartoum. Fin mai, le Conseil de sécurité de l'ONU a menacé les factions belligérantes de sanctions si elles ne parvenaient pas à mettre fin à la guerre civile qui ravage le Soudan du Sud depuis 4 ans et demi. Cette guerre civile a fait des dizaines de milliers de morts et près de 4 millions de déplacés.
L'Organisation internationale pour les migrations a affirmé que 46 migrants des Éthiopiens vraisemblablement sont morts noyés et 16 toujours portés disparus lorsque leur navire a chaviré mercredi à l'approche du Yémen après avoir traversé le golfe d'Aden. Au moins 100 migrants avaient été entassés sans gilet de sauvetage sur ce bateau d'un contrebandier en provenance du port de Bosaso en Somalie, selon l'OIM.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump promet de rester ferme sur ses positions lors du sommet du G7 vendredi et samedi au Québec, malgré les critiques formulées par les alliés des États-Unis contre sa politique commerciale. Selon son principal conseiller économique, Larry Kudlow, il y a toujours des tensions au sujet de quelque chose entre Washington et les autres membres du G7. Monsieur Kudlow réagissait ainsi lors d'un briefing à la Maison-Blanche au propos du premier ministre canadien Justin Trudeau, hôte du sommet, et de la chancelière allemande Angela Merkel, qui ont prédit des discussions difficiles avec M. Trump. Morgane Guiriec revient sur les déclarations de M. Trudeau.
Il va y avoir des conversations franches et parfois difficiles autour de la table du G7, particulièrement avec le président américain sur le commerce, les tarifs douaniers imposés à l'Union européenne au Canada et au Japon, a dit hier le premier ministre canadien. Selon lui, les rencontres du G7 devront permettre des conversations directes, parler des préoccupations et chercher un terrain d'entente sur les grands enjeux. Donald Trump a décidé d'imposer à tous les fournisseurs des États-Unis de lourdes taxes sur les importations d'acier et d'aluminium, y compris à l'Europe, au Canada et au Japon, ses plus proches alliés. En réponse, tous ont décidé de saisir l'OMC et annoncer des mesures de représailles, comme également la Chine et la Russie. Hier, les Européens ont durci le ton en promettant d'imposer, à partir du mois prochain, certains produits américains comme les jeans, le bourbon et les motos.
Ramadan Moubarak, c'est en ces termes que le président Donald Trump a accueilli hier soir ses invités à la Maison-Blanche Au dîner de rupture du jeûne pendant le Ramadan, le premier iftar de sa présidence, M. Trump renoue ainsi avec une tradition remontant à l'administration Clinton et maintenue par George W. Bush et Barack Obama. À ce dîner, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir les membres du corps diplomatique représentant nos amis et partenaires à travers le monde, a déclaré M. Trump. Il a salué les ambassadeurs qui représentent des pays essentiellement musulmans, ajoutant que ce rassemblement honore une tradition sacrée de l'une des plus grandes religions du monde. On se souvient que pendant sa campagne électorale en 2016, le candidat Trump avait suggéré d'interdire l'accès au territoire américain aux ressortissants des pays musulmans. Et depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il a adopté à ce sujet plusieurs décrets migratoires affectant quelques-uns de ces pays.
La colère n'a pas faibli hier en Jordanie où une grève a été observée dans la journée avant un nouveau rassemblement en soirée, signe de la détermination des manifestants à obtenir l'abandon du projet décrié de réforme fiscale. La démission lundi du Premier ministre et l'appel du roi Abdallah II à une révision complète du projet de loi sur l'impôt sur le revenu n'ont pas suffi à dissiper les craintes et griefs de nombreux Jordaniens. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine a mobilisé plus de 13 milliards de dollars, soit 7 500 milliards de francs CFA, depuis le début de ses activités. Ce chiffre représente une moyenne d'environ 700 millions de dollars par an entre 1998 et 2017. Ces fonds ont été investis dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications et des infrastructures. La spectaculaire décision éthiopienne d'ouvrir au secteur privé le capital de grandes entreprises publiques s'est imposée comme une nécessité plus qu'un choix. Les analystes soulignent que l'hyperdirigisme portant l'économie depuis plusieurs années est à bout de souffle. Ethiopian Airlines ou la société des télécoms, de même que des usines, la société des chemins de fer et des parcs industriels pourraient être ainsi privatisés. Addis Abeba, qui affiche la croissance la plus rapide, a entrepris un nombre important d'ambitieux projets d'infrastructures, dont des barrages hydroélectriques. Cependant, les devises étrangères sont de plus en plus rares, la dette publique et le chômage chez les jeunes sont de plus en plus insoutenables. La Maison-Blanche laisse planer le doute sur le respect ou non par les États-Unis des décisions de l'Organisation mondiale du commerce et l'OMC dans le bras de fer commercial sur l'acier. La Chine, la Russie, le Canada et l'Union européenne ont saisi l'OMC contre la décision américaine d'augmenter les droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés. Un conseiller de la Maison-Blanche a indiqué que Washington est lié par ses intérêts nationaux. Il a toutefois nuancé que les États-Unis continuaient d'utiliser l'institution.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On connaît l'affiche de la finale de la COSAFA Cup en Afrique du Sud.
La Zambie qui a décroché son ticket en battant 1-0 Madagascar lors de la première demi-finale. Et puis ce fut plus serré entre le Lesotho et le Zimbabwe. 0-0 à la fin du temps réglementaire, mais c'est le Zimbabwe qui se qualifie au tir au but.
La planète football prépare toujours le mondial à venir en Russie.
L'Angleterre accueille à Leeds son dernier match de préparation face au Costa Rica avant de plonger vers cette Coupe du Monde, l'occasion d'effectuer les derniers réglages pour mettre fin à 5 décennies de disette anglaise au Mondial. Le Portugal, avec sans doute Cristiano Ronaldo, affronte en amical une Algérie déjà en crise. Rabat, Madjer, le sélectionneur déjà sur la sellette, après la défaite à domicile contre le Cap-Vert, 3-2 la semaine dernière. Quant au match de préparation, prévu samedi à Jérusalem, entre l'Argentine et Israël, il a été annulé sous la pression des Palestiniens qui avaient appelé Lionel Messi et ses coéquipiers à ne pas y participer. L'annulation est tombée hier après la mobilisation de militants pro-palestiniens qui avaient brandi un maillot de la sélection argentine maculé de peinture rouge sang et avaient apostrophé les joueurs qui sont actuellement réunis en Catalogne pour un stage de préparation.
Tennis surprise à Roland-Garros.
La numéro 1 mondiale et finaliste sortante, Simona Halep, s'est qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros en dominant hier une ancienne numéro 1 mondiale, l'Allemande Angélique Kerber, en 3 manches 6-7, 6-3, 6-2. La Roumaine affrontera en demi-finale l'Espagnol Garbine Muguruza, qui a surclassé la Russe Maria Sharapova 6-2-6-1 lors de ce match décisif pour la première place mondiale au classement WTA. Enfin, avec vous Idrissa, le retour de la NBA, la finale entre Cleveland et Golden State. Alors, les Cavaliers ont-ils réussi à recoller les morceaux, Idrissa ?
Golden State a renversé Cleveland grâce à Kevin Durant pour s'imposer 110-102 hier et n'a plus besoin que d'une victoire pour décrocher un troisième titre NBA en 4 saisons.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Cameroun et la Guinée équatoriale ont rouvert leurs frontières 6 mois après l'avoir fermée pour stopper le mouvement armé qui a tenté de renverser le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema. Notre correspondant Moki Edwin Kinzeka s'est rendu dans la ville frontalière d'Ebibien, où des contrôles stricts restent en vigueur. Son reportage est repris ici par Nathalie Barge.
À la gare routière des Bébines, des hommes d'affaires camerounais et gabonais transportent des marchandises. Efraim Moukoua, camionneur camerounais, se réjouit de pouvoir enfin retourner dans son pays.
Les gens sont contents, les taximans sont avec les clients, les bus sont avec le personnel qui doit voyager à Bata et les autres endroits, mais quand c'est fermé, il n'y a pas de mouvement.
Le Cameroun fournit des produits alimentaires, des matériaux de construction et des pièces détachées de moteurs à la Guinée équatoriale qui, elle, livre des boissons et de l'huile végétale à son voisin. Rosalie Nava, femme d'affaires équato-guinéenne revenant du Cameroun, dit qu'il y a eu un grand mouvement de marchandises et de personnes à Ebibine ces 2 dernières semaines.
Vendredi passé, nous sommes entrés avec 9 camions. Nous avons fait voyage là-bas dedans parce qu'eux, ils n'avaient même plus de marchandises. Ils nous ont ravitaillés, nous sommes sortis. Et aujourd'hui, nous sommes là. C'est en train de bien se passer.
Madame Ava s'est plainte d'avoir été contrôlée 7 fois entre Bata et Ebibine par les militaires. Elle a indiqué que certaines personnes qui n'avaient pas leur papier d'identité ont été arrêtées. La Guinée équatoriale a fermé sa frontière avec le Cameroun le 24 décembre à la suite d'une tentative de coup d'État manquée. Le 29 décembre, les autorités équato-guinéennes ont déclaré avoir arrêté des personnes en possession de lance-roquettes, fusils et munitions se déplaçant vers la frontière camerounaise. De son côté, le Cameroun a déclaré avoir arrêté 40 hommes lourdement armés et renforcé la sécurité le long de la frontière de 280 km. Une mesure qui a paralysé les activités économiques des commerçants. Anderson Ketong-Kongue, responsable de l'unité administrative frontalière Ntemvali au Cameroun, a déclaré que la décision de rouvrir la frontière avait été prise à la suite de réunions au cours desquelles les deux pays avaient reconnu que la menace contre la présidence d'Obiang Nguema était écartée.
Progressively, serenity, peace.
Progressivement, la sérénité, la paix, l'ordre et la discipline sont perceptibles le long de la frontière. Les autorités équato-guinéennes ont jugé par elles-mêmes qu'il fallait relâcher les échanges et nous pensons que si cela continue, les barrières seront complètement levées.
Il y a 2 mois, la frontière n'était ouverte que 2 jours par semaine et les déplacements étaient strictement contrôlés par l'armée équato-guinéenne. Mais aujourd'hui, ils sont permis quotidiennement avec des contrôles spontanés par la police de chaque pays. À la tête de la Guinée équatoriale depuis 1979, Teodoro Obiang Nguema, réélu pour un 5e mandat de 7 ans en 2016, est le plus ancien dirigeant d'Afrique.
Le nouveau premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, poursuit ses réformes. Après avoir levé l'état d'urgence, il a annoncé que l'Éthiopie accepte la mise en œuvre intégrale des conclusions d'une commission internationale indépendante concernant son différend frontalier avec l'Érythrée. Timothée Donangmaï a recueilli à ce sujet l'analyse de Roland Marshall du Centre de recherche internationale de Paris.
D'un côté, il y a des marques réelles de changement, la libération de leaders politiques, la libération aussi de très nombreux prisonniers qui ont été un peu arrêtés sans trop de discernement par l'État. Et donc, ça laisse évidemment penser que les choses vont aller mieux. Et puis, de l'autre côté, on se rend compte que dans la vie quotidienne, les choses n'évoluent pas aussi rapidement qu'on devrait et qu'on pourrait l'espérer, et qu'en particulier, les contrôles policiers et, les réflexes de pouvoir continuent encore à être omniprésents et font qu'on perçoit un changement et en même temps on perçoit la fragilité qui est évidemment très grande de ce changement.
Qu'en est-il de la décision des dirigeants éthiopiens de mettre un terme à leurs différends frontaliers avec l'Érythrée ?
Le diable est dans les détails. On connaît l'histoire, hein, accord d'Alger décembre 2000, où Éthiopie et Érythrée promettent de s'en remettre à une commission internationale de juristes pour déterminer la frontière. Et puis 2002, une décision qui prend complètement à contre-pied l'Éthiopie, puisque ce qui avait été un peu présenté comme la source du conflit, la ville de Badme, est placé par la Commission internationale à l'intérieur de l'Érythrée. Et donc à partir de ce moment-là, la mise en œuvre de la démarcation de la frontière va être bloquée. Le régime éthiopien sous Meles Zenawi, puis son successeur, va être bloqué essentiellement en demandant des discussions préalables à la délimitation des frontières. Et évidemment, l'Érythrée qui pouvait enfin prendre une revanche symbolique sur sa défaite s'y est refusée et bloquant tout le processus. Aujourd'hui, il y a un espoir et en même temps cet espoir, il faut, et c'est là que je me répète, en souligner la fragilité. D'une part, l'Éthiopie dit qu'elle est prête à une application intégrale de l'accord d'Alger, donc de la décision de la Cour, mais en même temps, ça veut dire que l'Éthiopie va devoir rapatrier un certain nombre de troupes de ce qui devrait être par application de cet accord considéré comme territoire érythréen. Est-ce que ça va être fait ? Très étrangement, la décision de la direction de la coalition au pouvoir n'est pas rentrée dans ce détail-là. Du côté d'Asmara, évidemment, c'est d'une certaine façon un cadeau empoisonné. D'un côté, évidemment, Asmara peut crier victoire. De l'autre, le fait de ne plus disposer de cet argument symbolique pour justifier la répression interne, la mobilisation et l'encasernement des jeunes signifie que le régime érythréen va devoir changer de politique vis-à-vis de sa propre population.
C'était Roland Marchal du Centre de recherche internationale de Paris.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Sénégal, la petite localité de Popanguine est connue pour son pèlerinage marial. Elle devient chaque année, à l'occasion de la Pentecôte, le lieu de convergence de dizaines de milliers de chrétiens venus de tout le pays et de la sous-région. Et pourtant, la majorité de la population est musulmane, à l'image du reste du pays. À Popanguine, on célèbre avec fierté cette diversité religieuse tout en mettant en avant les liens sanguins. Reportage sur place d'Abdourahman Dia.
Popanguine, sur la petite côte sénégalaise, à 70 km de la capitale Dakar, ressemble à une ville morte durant le ramadan et quelques jours après le pèlerinage marial de Pentecôte. Mais ici, la devise pourrait bien être « une ville, une famille, une foi », partagée par musulmans et chrétiens et symbolisée par la proximité des lieux de culte. Ici, l'église et la mosquée sont à quelques jets de pierre. Cheikh Sis est l'assistant de l'imam de la mosquée.
Il y a des membres de ma famille qui sont chrétiens. Du côté maternel, il y avait des chrétiens. Jusqu'à présent, j'ai des oncles chrétiens. C'est vraiment une fierté. C'est le bon Dieu qui nous a demandé de préserver les liens familiaux. Et pour moi, un parent, quel qu'il soit, est un parent. Et je le considère comme tel.
Cette année marque la 130e célébration du pèlerinage chrétien de Popanguine, une ville que le pape Jean-Paul II a visitée en 1992. Mais cette visite n'est pas la seule fierté de Popanguine. Le cardinal Hyacinthe Tchandoum, le premier archevêque sénégalais autochtone, est un natif de la localité. Il est aussi le fruit d'un mariage interreligieux. Père Marie-Jean de Cumont est le recteur du sanctuaire marial.
Il y avait 20 filles et 18 garçons, donc il y a eu deux rescapés. Et dans ces premiers mariages, il y a eu François Flavie Tiandoum, qui était le chef du village, qui est devenu chef du village, et qui est le papa du cardinal Tiandoum, et Anna Diémé Alassane Sen, qui était la fille de l'imam, et qui est devenue la maman du cardinal Tiandoum.
Malgré la forte implantation des religions musulmanes et chrétiennes, ce baobab sacré, qui continue d'être un lieu de recueillement obligé des lutteurs traditionnels, est encore là pour rappeler le passé animiste de Popengine. L'événement le plus important qu'accueille la ville reste néanmoins le pèlerinage marial, une fête pour toute la ville. Lucie Manga est la présidente des femmes chrétiennes de Popengine.
Avec la manifestation, nous le faisons ensemble parce que les musulmans aussi reçoivent les pèlerins en même temps que nous.
Pape Moussa Cissé, le président du comité de gestion du foyer des jeunes, abonde dans le même sens.
Toute la logistique, on aide nos frères chrétiens à organiser la fête. Et pendant la fête, on sort de nos maisons pour que les pèlerins puissent habiter là-bas quoi, pendant les 72 heures qui sont là. Au niveau de Popengine, on ne parle pas de dialogue islamo-chrétien, on parle de la cohabitation.
Et cet héritage de cohabitation, les jeunes de Popengine entendent bien le garder jalousement. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Popengine, Sénégal.
Ici aux États-Unis, à l'initiative d'une organisation non gouvernementale basée à New York, la police de cette ville et le FBI et d'autres agences fédérales se sont mis ensemble pour informer la jeunesse musulmane new-yorkaise des opportunités d'emploi. Hushman Aptek était présent à cette rencontre au cours de laquelle il s'est entretenu avec les représentants de ces agences, les organisateurs et les participants sur les enjeux de la rencontre. Son reportage repris ici par Irénée Herman Ungbo.
Kingsborough College à Brooklyn, New York. C'est ici que ces jeunes musulmans sont venus découvrir d'eux-mêmes ce que les différentes forces de l'ordre ont à offrir comme opportunité. Parents, familles, amis et alliés ont également répondu présents à cet événement spécial, une initiative du Conseil pour l'Organisation des Peuples, une organisation à but non lucratif qui aide à New York les familles d'immigrants asiatiques et musulmans à faible revenu. Mohamed Razvi est PDG du COP.
C'est un événement unique qui réunit toutes les agences étatiques et fédérales. Je veux dire, du plus petit au plus grand. Le NYPD, le FBI, le service secret, elles sont toutes ici. Elles veulent faire connaître leur travail aux jeunes. Nous voulons aussi que nos jeunes se connectent à elles, sans crainte ni pression, et qu'ils sachent qu'ils peuvent eux-mêmes se joindre à ces agences.
Devant ces participants, les représentants ont exposé une kyrielle d'opportunités de carrière, explique Matthew Fleming du Bureau du contrôle des armes à feu, de l'alcool et du tabac.
Des événements comme celui-ci nous permettent de faire connaître notre mission, d'éduquer les jeunes et les universitaires sur ce qu'est l'ATF et sur le rôle que nous jouons pour assurer leur sécurité.
Le lieutenant John Way replace l'événement dans son contexte.
Je suis ici pour sensibiliser les jeunes de la ville de New York afin de promouvoir les services des gardes-côtes sur des points qu'ils ignorent.
Pour certains participants, c'est une introduction révélatrice à une éventuelle carrière professionnelle. C'est le cas pour l'étudiante Amina Ibrahim.
J'ai appris qu'ils essaient vraiment d'intégrer tout le monde dans leur profession. Pour moi, en tant que musulmane qui porte un foulard, le simple fait de savoir que je peux exercer cette profession sans aucun problème m'a été très utile.
Écoutons Abdallah Arshad, étudiant.
J'aime la concurrence et toutes les agences sont compétitives. J'aimerais bien rejoindre ces genres d'agences dans le futur.
Les organisateurs espèrent que des événements comme celui-ci permettront de combler le fossé entre les communautés musulmanes et les forces de l'ordre. De nouveau, Mohamed Razvi du Conseil pour l'Organisation des Peuples.
Lorsque ces agences recrutent nos jeunes, ils apprennent d'eux. Qu'apprennent-ils? Ils apprennent d'une nouvelle recrue pakistanaise ou musulmane, par exemple, que si quelqu'un porte un chalwar, pantalon traditionnel au-dessus du genou, cela ne signifie pas qu'elle est extrémiste ou terroriste. Cela signifie simplement que la personne est habillée pour prier. Ainsi, les agences apprennent progressivement à connaître notre foi.
Le Conseil pour l'Organisation des Peuples organise cette journée des carrières depuis 2011. Des centaines de personnes ont assisté à l'événement de cette année et les organisateurs espèrent une participation encore plus large dans les années à venir.
Raissa Girondin avec vous. Cette semaine, Washington Forum braque les projecteurs sur le Burkina Faso, tombé depuis 3 ans dans un cycle d'attaques terroristes et d'enlèvements dans le nord du pays. Pourquoi ce climat d'insécurité perdure? La stratégie de lutte contre le terrorisme du gouvernement doit-elle évoluer? une implication de la population est-elle possible alors qu'elle se sent de moins en moins protégée? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jonah Cummins. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.